Ah, quand même, des applaudissements à l'introduction. Bonjour, j'ai plaisir à vous souhaiter la bienvenue ce matin dans ce lieu de culte pour vivre ensemble un temps de célébration. Nous sommes le dimanche 3 septembre, c'est un jour tout à fait particulier à beaucoup d'égards. Aujourd'hui, Blaise fête ses 83 ans. Félicitations. Félicitations, Blaise. Et puis, fête également ses 60 ans Claude Parnigoni. Et Claude Parnigoni a organisé toute une fête. Et voilà, une partie de l'Église l'a rejoint à cette fête. On est un peu moins que d'habitude, mais on est heureux pour eux qui peuvent vivre une très belle journée aujourd'hui. C'est aussi une manière de vivre l'Église que de vivre ensemble des fêtes. Et je voulais saluer les musiciens parce qu'aujourd'hui, nous avons une équipe familiale. Alors, nous connaissons David, hein, David Porter. Il a apporté une prédication ce printemps. Il est accompagné de son fils, Jérémy, au violoncelle, et sa fille, Carice. C'est juste, hein, Carice. Les rejoindra tout à l'heure. Merci de mettre aujourd'hui vos talents au service de l'Église. Je crois que c'est comme ça que vit la communauté et qu'elle peut se développer. Il y a toutes sortes de services d'ailleurs qui peuvent être rendus dans l'église. Hein. Ça peut être de la musique, ça peut être le nettoyage, ça peut être toutes sortes de talents. C'est un culte de reprise, un culte de rentrée annonçait le programme, ce qu'on appelle nous le mémo de l'église, c'est-à-dire le programme. Et il y a une personne ici pour qui le concept de rentrée est d'une actualité torride, c'est notre nouveau pasteur, Philippe Anchaud, qui a débuté officiellement son service à l'EM ce 1er septembre. Mais je dois dire qu'il n'a pas même attendu le 1er septembre pour être actif et disponible. L'arrivée de Philippe Anchaud comme pasteur dans notre église, ça fait suite au vote du colloque du 28 juin. Ce 28 juin-là, après 9 mois de travaux, le temps d'une grossesse, le groupe de recherche d'un pasteur et le conseil ont proposé à l'Assemblée générale qui était réunie l'engagement de Philippe comme pasteur à plein temps. Et cette proposition a été approuvée par un vote qui a eu un score, on appelle ça un score soviétique, je crois. Bon, en notre nom à tous, je vous souhaite une bienvenue particulière à toi Philippe, à ton épouse Heidi, à vos enfants, Elliot, qui est peut-être là. Elliot est là? Ah ouais, il est tout au fond. Ouais. Bienvenue Elliot. Et à Laura qui n'est pas là, qui est partie faire ses études à Grenoble. Vous l'avez déménagé hier, je crois. Bienvenue à toute votre famille. Nous sommes une église et nous nous réjouissons avec toi, Philippe, de parcourir les verts pâturages de la parole de Dieu et de découvrir les eaux paisibles que propose le Seigneur. Ces eaux qui étanchent vraiment la soif profonde qu'il y a au cœur de chaque personne, au cœur de chaque être humain. Je vous invite à la prière. Seigneur, devant toi nous nous recueillons. Nous te bénissons pour Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. C'est grâce à lui si nous sommes ici ce matin. Nous te bénissons pour ta fidélité, démontrée au travers des âges, démontrée dans la vie de l'Église, démontrée au cœur de nos vies. Pour vivre, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous te demandons d'être maintenant présent au milieu de nous comme tu l'as promis. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.
Donc, comme c'était dit, moi je m'appelle David. Il y a aussi un autre David derrière et un Christophe aussi. On est toute une équipe ce matin. Je ne m'appelle pas Xavier. Xavier était... je le remplace. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas être là. Il est quand même là. pour une partie du culte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de David. C'est un nom commun. Donc, je pense que vous n'allez pas avoir problème avec ça. Il y a un autre David aussi qui a écrit la plupart des paroles du recueil de louanges de la Bible, c'est-à-dire les psaumes. Il parlait aussi d'un nom, Éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et c'est justement ce nom que nous voulons élever ce matin. Il a dit, Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu en prennes soin, et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses. Nous voulons au début de ce culte et aussi au début de cette année scolaire, cette rentrée, nous centrer sur notre Dieu, l'Éternel, celui qui est fidèle, celui qui reste le même hier, aujourd'hui et à jamais. Je vous invite à vous lever pour chanter un cantique. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire.
Sois Dieu le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon ami, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au-devant de ton roi, pour célébrer sa mémoire. Thank you. Loué soit Dieu, le Créateur, le Souverain Maître. À tous il donne le mouvement, la vie et l'être. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. Sache le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. Ses tendres soins pourvoient à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Sois Dieu, que les anges lui rendent hommage, que sa louange sur terre en tout lieu se propage, qu'en l'unissant, tout en moi chante son nom. Alléluia d'un jeune âge, qu'en l'unissant, tout en moi chante son nom. Alléluia, ta jeune âge. Son nom, comme un tour aux quatre vents, ton nom. Chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom, comme un tour aux quatre vents, ton nom. Nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, ton nom, comme un tour aux quatre vents, ton nom. Nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme un tour aux quatre vents, ton nom, nous rend fort à chaque instant, ton nom. Tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom.
Seigneur, merci pour le privilège de pouvoir louer ton nom ce matin. Jusqu'au ciel va ton amour. Éternel et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est au-dessus et aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds, comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci que nous pouvons mettre notre confiance en toi aussi au début de cette nouvelle année scolaire. Merci parce que tu ne changes jamais. Tu es toujours le même. Tu es fidèle. Dieu, ta fidélité.
Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nuées. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Inépuisable ta compassion, toute ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Je ta fidélité dure toujours. Romance du printemps, hors de l'automne, neige hivernale aux saveurs de l'été. Fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité dure ta joie et ton pardon en abondance, ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance, par ta fidélité, tout est à moi. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté, se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité, Dieu, ta fidélité. Dieu, ta fidélité durera toujours.
Voilà, c'est la rentrée, c'est aussi la rentrée pour les potes du dimanche, notre groupe d'école du dimanche. Et c'est maintenant qu'ils peuvent rejoindre leur groupe. Voyons, alors, qui est-ce qu'on a comme moniteur? Il y a lui. Voilà, et encore, vous êtes les deux aujourd'hui? Tu prends les quel âge? 9-11. 8-11. Et les 4-8. Voilà. Alors je vous invite à rejoindre. Nous voulons encore prier pour vous. Seigneur, nous te remercions pour les enfants. Nous te remercions de pouvoir prier pour eux, te demander de les accompagner, de leur permettre d'avoir la joie de te découvrir. Et nous te prions aussi pour les moniteurs, donne-leur aussi de la créativité et la joie de te faire découvrir. Amen. Voilà, nous, maintenant nous voulons avoir un moment de prière pour Philippe. J'invite Claude Bécher, notre pasteur, Sylvain Dupertuis du Conseil, à me rejoindre et Philippe à venir au milieu de nous. Je vous invite peut-être à vous lever pour ce temps. Seigneur, nous te bénissons pour Philippe, pour sa présence au milieu de nous et pour son ministère qui débute ici à l'église évangélique de Mérin. Nous te remercions parce que tout au long du processus qu'il a amené ici, nous avons pu voir ta main. Nous la reconnaissons. Nous te prions maintenant de l'accompagner et de le fortifier dans son service ici. Amen.
Oui, c'est vrai, Seigneur, nous te disons merci parce que c'est toi. Nous reconnaissons que c'est toi qui nous as envoyé Philippe parmi nous. Et nous te prions de le rejoindre dans voilà, cette étape de sa vie et de la vie de l'Église, où il rejoint un chantier en construction, en croissance dans sa marche. Et nous te prions que tu accompagnes l'Église et Philippe pour marcher ensemble. Nous te prions qu'il puisse apporter sa dynamique, des interpellations selon les dons qui sont les siens. Nous prions de lui aider à rejoindre les besoins de chacun dans la communauté, qui sont différents, cette communauté si diverse, dans ses besoins, ses attentes, dans les parcours de vie de chacun. Et que Philippe puisse aussi nous aider, non seulement dans la communauté, mais dans notre témoignage ici, à rejoindre tous ces gens qui nous entourent dans cette cité, pour le témoignage de l'Évangile. Amen.
Seigneur Jésus, chef de l'Église, c'est toi qui as fait des dons aux hommes pour prolonger ton service de coordination de ton peuple. Parmi ces dons, il y a les ministères que nous voulons recevoir comme venant de toi, Seigneur. Et en ce jour d'installation du ministère de Philippe Anchaud, nous te prions que tu l'oignes de ta grâce pour qu'il puisse faire ce qui nous est échu comme mission ici. Qu'il soit prolongement de ta parole quand il ouvre ta parole. Qu'il soit serviteur de ton esprit quand il prend soin pour encourager. Nous te prions pour sa famille, toute sa famille, que tu bénisses Heidi et chacun des enfants là où ils sont, pour l'accompagner. Nous te prions pour la communauté qu'ils avaient servie précédemment, que tu la bénisses et la renouvelles, la diriges. Seigneur, nous nous sentons gâtés par toi ce jour et te remercions pour le don de ta grâce. Philippe, au nom du Père qui nous aime, du Fils qui applique le salut, le Saint-Esprit qui agit parmi nous, nous te recevons, te prions, Seigneur, que tu le bénisses parmi nous. Au nom de Jésus, de son règne qui vient, amen. Amen.
Eh bien, bonjour à chacun, chacune. Un immense merci pour votre accueil particulièrement chaleureux qui nous fait un bien indicible, alors je le dis avec des petits mots, pour le grand bien que vous nous faites. Merci. Nous nous réjouissons vraiment en famille de vous rejoindre, de continuer à vous rejoindre dans ce beau projet de rejoindre Mérin. C'est un défi considérable qui nous attend en tant qu'Église. J'estime que nous avons eu un privilège tout particulier de pouvoir préparer cette rentrée avec le Conseil, avec Roger et avec Claude, ce qui m'a permis une arrivée douce. Et comme nous avons parlé de nom en introduction à ce culte, j'ai un service à vous demander. Aidez-moi avec les noms. Le mien vous sera probablement vite connu, Philippe, et il ne faut surtout pas hésiter à me tutoyer, à nous tutoyer, mais aidez-moi à acquérir vos prénoms et vos noms. Je me réjouis de faire connaissance avec chacun, avec chacune. C'est maintenant qu'on va voir si je fais des progrès en matière technique. Nous avons déménagé en famille le 19 août. Qui a déjà déménagé dans cette assemblée? Ouais, donc vous savez comment c'est en déménagement. Plein de préparations avant. Il faut du temps, de la patience, la persévérance. Et puis ensuite, on s'installe. Le 19 août, on s'est installé. Le 20 août, presque tous les cartons étaient ouverts. Ma femme est formidable. Et je me souviens, le dimanche 20 août au soir, m'être assis sur notre canapé et m'être dit, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et plus généralement, que peuvent faire des chrétiens, des chrétiennes, une assemblée légitimement bien installée, dans la place, comme l'on dit? Alors, toute proportion gardée, je vous propose de méditer un épisode marquant de la vie du roi David. C'est comme si David voulait réparer un oubli. David qui est parti de rien. David qui a réuni les tribus du nord et les tribus du sud sous sa seule autorité. David qui a consolidé leur unité en donnant une nouvelle capitale, Jérusalem. Il y a ramené les symboles les plus importants du culte du Seigneur. David, qui a assuré à son pays des frontières sûres, qui a imposé le respect aux nations voisines. David, qui s'est construit un palais prestigieux. David, qui a emménagé, qui s'est installé. Une fois installé, que peut-il bien faire? Mais c'est bien sûr. Il pourrait construire pour Dieu une maison en dur. Une maison en dur à la place de cette tente qui rappelle tellement d'années d'errance dans le désert. David a le roi, est le roi, et le roi à sa maison, son palais. Et le roi se dit, eh bien, maintenant, il faudrait que Dieu ait sa maison. Il faudrait que Dieu ait son palais. Il faudrait que Dieu ait son temple. Nous lisons ensemble en 2 Samuel 7, la suite des événements de Samuel 7. Et je lis dans la version dite du Semeur. comme le roi s'était installé dans son palais et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis alentour, il dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. » Nathan lui répondit, « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » Cependant, la nuit suivante, l'Éternel adressa la parole à Nathan en ces termes, « Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel. Tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter ? Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai cheminé sous une tente, logeant dans le tabernacle. Pendant tout ce temps où j'ai accompagné les Israélites, ai-je jamais dit à un seul des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple, pourquoi ne me bâtissez-vous pas un temple en bois de cèdre ? Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom très glorieux, comme celui des grands de la terre. J'attribuerai un territoire à mon peuple Israël où je l'implanterai pour qu'il puisse habiter chez lui et ne soit plus inquiété et opprimé comme auparavant par des hommes méchants. Comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple Israël. Je t'accorderai une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. Enfin, l'Éternel t'annonce qu'il te constituera une dynastie. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments, mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retiré à Saül, que j'ai écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Nathan rapporta fidèlement à David toutes ces paroles et toute cette révélation. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Que penser de l'attitude de David ? Que penser de l'attitude de David ? Une critique facile consisterait à dire qu'il a d'abord penser à son palais avant de penser au palais de Dieu. Et je crois que ce serait injuste de penser ainsi. Ça faisait des années que le roi David faisait tout ce qu'il pouvait pour offrir un culte à Dieu dans les règles de l'art. Il a installé une tente à Jérusalem. Il a organisé des sacrifices matin et soir. Il a ramené l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Il a composé quantité de cantiques magnifiques pour le culte. Je ne crois donc pas que David ait été négligent jusque-là. Et rien, ni dans la loi, ni dans la tradition, ne disait que Dieu devait se faire construire un temple en dur. Mais David prend l'initiative. David veut faire un pas de plus. David veut faire quelque chose pour Dieu. A-t-on le droit de prendre des initiatives pour Dieu ? Mais bien sûr. Absolument. Oui, nous avons le droit de prendre des initiatives pour Dieu. Il nous a fait à son image. Il nous a doués d'intelligence, de créativité, de volonté. Il nous a confié la responsabilité de la terre, rien de moins. Il nous a donné des capacités. Nous ne devons donc pas attendre passivement que Dieu nous révèle forcément autre chose. Comme chrétiens, comme chrétiennes, nous nous mettons simplement en route pour lui. Nous mettons en œuvre les dons qu'il nous a donnés. Nous réfléchissons, nous décidons, nous agissons. J'ai lu cette phrase lundi matin. Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est important que tu le fasses. Nous nous mettons en route. Nous prenons des initiatives pour Dieu. Et en même temps, nous essayons de discerner la volonté de Dieu. Pour ce faire, David a demandé l'avis de Nathan, le prophète. Et de façon exceptionnelle, Dieu a révélé à David autre chose à faire. 1 Timothée 3, verset 1, nous lisons « Si quelqu'un veut, on a le droit de vouloir, on a le droit d'ambitionner, on a le droit d'espérer grand pour l'œuvre du Seigneur. » À condition de se soumettre à Dieu et de rectifier le tir à chaque fois que ce sera nécessaire. J'apprends autre chose en réfléchissant au projet de David. C'est l'importance symbolique de certains lieux. De Jérusalem d'abord, qui n'appartenait pas à la tribu de Juda ni aux tribus du Nord. C'était une capitale au centre, ethniquement neutre, destinée à être le symbole de l'unité nationale, autour d'un seul roi, autour d'un seul culte. La maison que David se fait pour lui-même, c'est-à-dire son palais, ça dit aussi quelque chose de symbolique, ça dit l'autorité du roi. Et la maison que David veut faire pour Dieu, le temple, doit elle aussi délivrer un message. Le temps de l'errance, c'est fini. Israël, maintenant, est bien installé dans son pays, chez lui. La beauté, la grandeur des installations doivent dire au monde entier la beauté et la grandeur de Dieu. La forme du culte doit dire la sainteté de Dieu, l'exigence de Dieu qui donne sa loi, la gravité du péché, et en même temps l'amour d'un Dieu qui pardonne, la fidélité d'un Dieu qui fait alliance. Nos maisons disent qui nous sommes. Nos intérieurs disent qui nous sommes. L'Église évangélique de Mérin dit qui nous sommes. Et comme nouvel arrivant, je puis vous dire qu'elle le dit fort bien, qui nous sommes, dans sa forme extérieure, comme dans son organisation intérieure. L'Église de Mérin dit qui nous sommes. Elle symbolise la vie d'une communauté. Elle est un signe pour tous. L'être humain ne vit jamais sans un lieu. Que ce soit une tente dans le désert ou un palais royal. Mais vous l'avez vu, quand David projette de construire une maison pour Dieu, eh bien Dieu, lui, il va à contre-courant. Ça, c'est sa liberté de Dieu, hein. Si Dieu ne vient jamais à contre-courant de nous, il faut qu'on se pose la question de qui est Dieu dans notre vie. Et Dieu, lui, promet de construire une maison pour David. Versets 11 et 12. Il promet à David une maison royale, une dynastie. Et David reçoit cette promesse comme une grâce imméritée. Versets 18 à 21. Alors le roi David alla se placer devant l'Éternel et lui adressa cette prière. « Seigneur éternel, qui suis-je et qu'est donc ma famille pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ? Et comme si ce n'était déjà pas suffisant à tes yeux, Seigneur éternel, voilà que tu fais encore à ton serviteur des promesses pour l'avenir lointain de sa dynastie. Seigneur éternel, cela sied-il à un humain ? Que pourrais-je te dire de plus ? Seigneur éternel, tu connais toi-même ton serviteur. C'est parce que tu l'as promis et que tu en as décidé ainsi que tu as accompli ces grandes choses et qu'en plus, tu les as révélées à ton serviteur. Promesse de Dieu pour David. Une dynastie, un héritage. Et la promesse s'est réalisée dans la personne de Salomon d'abord, puis dans la succession des rois de la lignée de David qui ont régné à Jérusalem. Alors qu'au nord, les coups d'État se succèdent, au sud, à Jérusalem, la dynastie reste stable et elle restera en place envers et contre tout pendant des siècles, jusqu'en 586. Et quand Dieu met un terme à l'indépendance de Juda, quand Dieu renvoie le dernier roi en chaîne à Babylone, est-ce que la promesse s'éteint ? Est-ce que la promesse de la dynastie de David s'arrête ? Non, la promesse perdure. Il sera rétabli, le règne de David. Il va venir, le fils de David. Il est venu, le fils de David, Jésus, roi des Juifs, roi des peuples, mon roi. Qu'est-ce que j'apprends ici ? En dépit des apparences, en dépit des circonstances, en dépit des déceptions, Dieu tient parole. Est-ce qu'on peut garder ça profondément dans notre cœur pour la saison qui s'ouvre ? Devant ces trucs qui vont s'écrouler sous nos pieds, devant ces situations qui vont nous dépasser, devant ces ennuis de santé qui vont peut-être nous submerger, devant ces difficultés dans nos familles. Est-ce qu'on peut garder ça ? Dieu tient parole. Il ne nous décevra pas. Jamais. Deux maisons, donc. Deux maisons. David, qui veut construire une maison de culte pour Dieu. Dieu, qui veut construire une maison royale pour David. Deux maisons. Quand je lis ce texte, je me pose la question suivante. Deux maisons. Laquelle de ces deux maisons est la plus importante ? Les gens de l'époque étaient très attachés au temple parce qu'ils y voyaient un signe tangible de la présence de Dieu avec eux. Ils n'arrivaient même pas à imaginer qu'un jour ce temple auquel ils tenaient allait disparaître. Ils mettaient le temple au-dessus de toute autre considération. Ils mettaient le temple au-dessus de la relation à Dieu, au-dessus de la justice humaine. Il est devenu pour beaucoup le temple, comme un talisman, comme un porte-bonheur. Et un jour, il a disparu dans les flammes. C'est la maison que Dieu construit qui est la plus importante. La lignée de David jusqu'au Christ, à la tête d'un peuple qu'il rassemble, qu'il chérit, qu'il conduit. C'est la maison que Dieu construit qui justifiait la construction et le maintien du temple, et pas le contraire. Alors de ce côté-ci de l'histoire, je me demande, comment donner sa juste valeur à cette maison qui est à double titre notre maison, l'Église. Comment donner sa juste valeur à tout ce que nous voulons construire ensemble pendant l'année qui vient? Le projet de Dieu est de construire une maison spirituelle composée de gens qui lui appartiennent, des pierres vivantes qui sont une bénédiction pour le monde. Le symbolisme des lieux compte. Vous avez su, ici à Mérin, y apporter une attention qui vous honore et qui honore Dieu. Mais la maison spirituelle compte encore plus, et vous le savez. Donc, l'église de Mérin, nous allons continuer à la construire, ensemble, avec des plans, avec des poutres en bois ou en acier, avec des parpaings, avec du béton vibré, avec des plannings, avec des projets, avec le mémo, avec des devis, avec de la libéralité, avec des structures, avec des groupes de travail, avec des réunions, avec le culte. Mais nous allons surtout construire avec la prière, avec l'enseignement de la parole de Dieu, avec l'amour du prochain, avec la pratique d'une vie juste et avec la poursuite de la justice. Et tout cela, ça se transmet. Comme la royauté se transmettait. Et cela va durer non pas pour une, deux ou trois générations, mais pour toujours, jusque dans l'éternité. Malgré tout ça, David tenait donc à la construction du temple. S'il ne pouvait pas le bâtir lui-même, il voulait au moins préparer la construction de ce temple. Alors, il achète le terrain où sera installé l'autel du futur temple. Il prépare des grandes pierres pour la construction. Il réunit le fer qui servira pour les clous et les gonds. Il amasse une quantité incalculable de bronze. Il fait venir du bois de cèdre, il met de côté des tonnes d'or et d'argent. Il organise les lévites pour le service du temple, il met en place les chanteurs. Il donne des plans du temple à Salomon, son fils. Il précise comment seront faits les ustensiles du culte. Il fait des dons personnels en plus de tout ce qui relève des impôts. Il encourage les chefs à faire eux aussi des dons personnels. Tous ces détails, vous les trouvez précisés dans 1 Chronique 21 à 29, 8 chapitres entiers consacrés à la construction du temple. David prépare donc tout jusque dans le moindre détail et son fils Salomon reçoit pour ainsi dire un kit complet, mieux que chez Ikea. C'est assez impressionnant ce que Salomon reçoit en main propre. Mais voilà que David prépare beaucoup moins bien la transmission de la royauté. La construction de la maison de Dieu était importante, voulue par Dieu. La construction de la maison en dur, David l'a drôlement bien préparée. Mais pour la construction de la maison humaine, David a moins bien fait. Quel exemple a-t-il laissé à son fils? Certes, un chef militaire hors pair, un fin politique, un musicien, un poète remarquable, un serviteur de Dieu, un adorateur de Dieu. À bien des égards, David va être un exemple pour les générations à venir. Sauf dans le domaine de sa vie affective. On se rappelle son adultère. On se rappelle sa repentance. On sait peut-être moins qu'il avait une douzaine de femmes et que ses enfants échappaient complètement à son contrôle. Il a scellé des alliances avec les peuples voisins en épousant des princesses étrangères. Et c'est justement par là que Salomon tombera, et plus bas encore que David. Et je me pose la question suivante. Pour moi d'abord. Pour nous, comme communauté. Quel exemple laissons-nous pour nos enfants, pour nos petits-enfants? Quel exemple laissons-nous pour les générations à venir? Et puis il y a encore cet autre domaine où David a failli tout compromettre. Dans sa vieillesse, il aurait dû céder le pouvoir à Salomon officiellement pour éviter toute crise de succession, mais dans les faits, il ne l'a pas fait. Il a parlé de faire régner Salomon à sa place, mais il ne lui a jamais cédé le pouvoir. Dans sa grande vieillesse, physiquement, mentalement amoindri, ses propres fils briguent le pouvoir à tour de rôle. Dans son dos, on organise une cérémonie en faveur d'Adonia, qui a le soutien du chef de l'armée. Un coup d'État se prépare. Et c'est là, à la toute dernière minute, que les plus proches de David arrive à le convaincre de faire couronner Salomon, enfin. Il était moins une. Nous pouvons, là, nous devons, là, nous interroger sur la transmission humble du flambeau aux générations futures. Comment va-t-on le faire? Par l'exemple, nous l'avons dit, par l'enseignement, par l'écoute, par la cohérence de vie, en confiant des responsabilités assez tôt à la génération qui vient. Construire l'Église, c'est former les chrétiens d'aujourd'hui, des plus jeunes aux plus aînés, en accordant une pleine attention à tous. Construire l'Église, c'est aussi former les leaders de demain, c'est les encourager, c'est les accompagner, c'est leur faire confiance ensuite, quand ils prennent la relève. Je conclue. David dit à Dieu, « Je veux te construire une maison, Seigneur. » Dieu dit à David, « Et mon gars, c'est moi qui vais te construire une maison, une dynastie. » Pour reprendre alors ma question du début, une fois bien installé, légitimement, que pouvons-nous bien faire? Eh bien, nous voulons continuer à construire une église solidement implantée à Mérin. Le Seigneur nous promet, « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Il y a notre part, il y a la part de Dieu. Et nous ne négligerons aucune des deux. Nous allons bien préparer toutes les constructions pratiques, matérielles. Nous aurons raison d'y apporter du soin, de l'ingéniosité, des prévenances. Et nous voulons bien préparer aussi la construction spirituelle, en écoutant Dieu, en lui faisant confiance, en transmettant plus loin le flambeau de la foi qui nous anime. Et Dieu ne nous décevra pas. Il est avec nous. Qu'il nous soit en aide. Bonne rentrée. Amen.
Je vous invite à un temps de prière communautaire où librement vous pouvez vous exprimer devant Dieu, dans votre cœur ou à haute voix.
Seigneur Jésus, merci parce que tu construis ton temple aujourd'hui avec des personnes de toutes les races et de toutes les langues. Et ici, sur le plan local, nous ne sommes pas dignes de faire partie de ta maison à cause de ta sainteté, mais te remercions pour ta grâce qui nous accueille. C'est toi qui choisis, même si nous nous jugeons indignes. Aide-nous à nous ajuster sur toi, Seigneur Jésus, pour que tu sois visible d'une manière concrète dans et par nos vies, par ta grâce. Jeunes et vieux, ensemble, merci pour ta parole qui nous rejoint. Nous t'adorons, Seigneur. Amen.
Merci Seigneur pour toutes les étapes que tu nous as permis de vivre jusqu'à aujourd'hui, pour ta fidélité au cours des années, pour notre présence dans ce nouveau lieu de culte qui a une dizaine d'années. Nous te prions aussi pour l'étape suivante avec l'arrivée de Philippe, de Rémi, de Claude aussi. Nous confions cette étape, sachant que nous vont compter sur toi. Nous te redisons notre confiance, notre paix face à cet avenir. Béni sois-tu, Seigneur.
Père, parce que nous avons la liberté de nous réunir en ton nom. Et nous voulons penser ce matin aussi à nos frères et sœurs qui sont persécutés à travers le monde. Pensons particulièrement à nos frères et sœurs dans le Proche-Orient et ainsi qu'en Corée du Nord où tu vois la vie de chrétien difficile. Seigneur, veuille leur apporter ton réconfort et que malgré les situations difficiles, leur bourreau puisse se tourner vers toi par l'exemple qu'ils puissent montrer. Et que aussi ta maison puisse être encore en place pour l'amour de ton nom. Amen.
Seigneur, merci parce que dans cette réalité que tout vient de toi, tu nous délègues une part de ce que tu fais. Et si nous sommes inaccessibles, c'est toi qui le fais. Merci parce que cela calme toutes nos anxiétés, notre crainte de ne pas réussir, parce que tu vas au-delà de ce que nous pouvons faire. Amen.
Seigneur, nous voulons te dire merci de nous rappeler ce matin que tu nous décevras pas et que tu tiens parole. Et Seigneur, malheureusement, nous allons certainement te décevoir parfois. Mais Seigneur, merci parce que tu ne désespères de personne si nous sommes prêts à t'écouter, à t'obéir et à nous repentir. Alors Seigneur, donne-nous cette attitude, donne-nous ces cœurs, Seigneur, pour que nous soyons prêts à t'écouter et à t'obéir. Nous te demandons cette grâce dans le précieux nom de Jésus. Amen.
Amen.
Si le Seigneur Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui construis l'Église. Travaille au milieu de nous, pour que nos efforts, nos talents, nos projets soient utiles à ton royaume. Amen.
Rien ne peut nous séparer.
Voici le temps de la Sainte Cène. Dans l'évangile de Luc, avant de partager le pain et le vin, Jésus dit à ses disciples « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. » Et ça replace ce repas, ce pain, ce vin, dans cette perspective du salut, cet immense projet de Dieu de rejoindre l'homme. C'est bien le repas qui rappelle la libération du pays de l'esclavage, du pays d'Égypte, que partagent Jésus et ses disciples. C'est le repas de la fidélité de Dieu. Et cette fidélité culmine, comme le salut culmine dans la personne de Jésus-Christ, dans sa mort et sa résurrection, qui garantissent la nouvelle alliance qui nous est offerte aujourd'hui. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, en Jésus-Christ. Deux versets dans les Hébreux. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de ce qui gêne notre marche, et en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus dont notre foi dépend du commencement à la fin, car renonçant à la joie qui lui revenait, il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Le texte de l'institution dans l'évangile de Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à ce que son sens soit pleinement réalisé dans le royaume de Dieu. » Il prit alors une coupe, remercia Dieu et dit « Prenez cette coupe et partagez-en le contenu entre vous. Car je vous le déclare, dès maintenant je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. » Puis il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » À la fin du repas, il leur donna la même coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance garantie par mon sang qui est versé pour vous. »
Nous nous souvenons, Seigneur, que tu nous as rachetés à grand prix. Et nous te disons de tout notre cœur, notre reconnaissance. Amen.
Voilà, nous allons passer avec le pain et le vin dans les plateaux. Dans les plateaux, il y a au centre des coupes de couleur qui ont du jus de raisin, si vous le désirez. Si vous désirez participer à la coupe, Philippe veillera et vous lui ferez un signe et il vous l'amènera.
Prions ensemble. Seigneur, merci pour ces éléments qui nous rappellent de ton amour. Merci que nous pouvons justement faire partie de cette église que tu es en train de construire grâce à ton œuvre sur la croix. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu es mort à notre place. Tu as payé le prix pour que nous soyons libérés. Que nous puissions savoir que notre compte devant toi est réglé, non pas à cause de nos efforts, ni à cause de nos mérites, mais parce que tu es mort à la croix pour nous. Merci que tu es ressuscité, que lorsque nous partageons ces éléments, aujourd'hui nous savons que tu as vaincu la mort. que tu continues à construire ton Église. Tu veux qu'on soit aussi des témoins pendant la semaine et pas simplement le dimanche matin. Que nous puissions, Seigneur, connaître ta présence avec nous aussi tous les jours de cette semaine. Que la réalité de ta résurrection puisse être manifestée dans notre vie. Que nous puissions, Seigneur, nous dépendre entièrement de toi, à ne pas aller par notre propre force, mais à puiser notre force en toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous as libérés, c'est toi qui es ressuscité, qui revient pour ton Église. Merci, Seigneur.
Les projets de David, des tonnes d'or. Vous me voyez venir? Oui, les projets, ben, on participe aux projets. Hein. Il n'y a pas que Dieu en haut. Hein. Il veut qu'on soit participant dans ce qu'il fait. Voilà, nous allons passer à l'offrande. Collecter l'offrande. Merci Seigneur de pouvoir, au travers de l'offrande, participer à ton projet de bonheur et de paix pour le monde. Amen. Là, c'est le temps des annonces. du dimanche 3 septembre, c'est la bonne date, c'est tout bon, on peut y aller. Voilà, cette semaine, c'est la reprise. Le conseil se retrouve ce mardi et le groupe de jeûnes le 6, mercredi 6. Dimanche 10 septembre, il y a la fête d'inauguration de la HET Pro. Vous savez, c'est le nouveau nom d'Emmaüs, de l'école d'Emmaüs. Voilà, c'est une fête à laquelle vous pouvez vous joindre. Alors ça, c'est le 14-15 octobre, le week-end, c'est vrai. Sauf qu'il faut vous inscrire jusqu'au 17 septembre. Donc le 17 septembre, c'est pas si loin que ça. Il y a tout plein de flyers, vous en trouvez sur le panneau à la sortie. Claude Bécher va les chercher pour vous les refiler à la sortie, je crois. Vous n'allez pas pouvoir y couper. Mais le thème, la bénédiction faite passer, qui nous sera amenée par Claude, vraiment, nous nous réjouissons de vivre ce temps ensemble qui participe à la construction, à l'édification de l'Église. Donc, inscrivez-vous jusqu'au 17 septembre. Merci. Et puis, la semaine du 19 septembre, le mardi 19 septembre, on débute avec les ateliers bibliques, la formule que nous avons vécue déjà l'année passée, avec cette fois un thème tout à fait particulier. Vous avez ici le flyer qui vient d'arriver, qui est tout chaud. Diable, démon et liens occultes. Claude Bécher, Philippe Anchaud participent à cet atelier biblique. Donc, c'est à 19h30, une petite collation. Le sujet démarre, l'exposé démarre à 20h. Et la conclusion, les conclusions sont apportées entre 21h05 et 21h15. Et je vous assure, ils tiennent les horaires. Mais c'est vraiment bien. C'est une bonne formule. C'est une série de cinq rencontres, 19 septembre, 3 octobre, 17 octobre, 31 octobre, 14 novembre. Vous allez encore donc en entendre parler. Et tout ça se terminera par un forum avec une table ronde. L'idée étant de parler de la pratique du secret. Voilà. Donc on pose d'abord les bases et on arrive au forum le 24 novembre. Le 22 septembre, c'est la reprise du caté pour les jeunes 13-15 ans. Vous pouvez inviter, si vous connaissez des jeunes qui sont dans cette tranche d'âge, même qui ne sont pas dans l'église, mais qui seraient intéressés à participer au caté. C'est libre, il n'y a pas besoin d'avoir un pédigré particulier, pas besoin de faire partie de l'église pour participer au caté. Voilà, l'invitation est faite, lancée. 30 septembre, la journée porte ouverte à la Marive Yverdon. 1er octobre, la Compagnie de la Marelle jouera son spectacle Painting Luther à 17h au centre paroissial œcuménique de Mérin à la Cité. Et puis le 18 novembre, il y a la grande journée de la frais. Ça réunit toute une série d'églises évangéliques à Fribourg autour de ce thème « Enquête de l'essentiel ». Pourquoi on vous en parle déjà maintenant? C'est parce que, en fait, ils font le système EasyJet. C'est-à-dire, plus vous vous inscrivez tôt, moins c'est cher. Et vous êtes maintenant encore dans la période favorable. Donc, mais allez voir sur oneevent.ch, ça vaut le coup et ça donne une bonne idée de ce qui peut se vivre là-bas. Et puis, on recherche un appareil photo Sony qui a été perdu dimanche dernier. Si vous avez vu un appareil Sony qui errait tout seul, merci de l'indiquer au pasteur ou à moi. Ou voilà. Une annonce supplémentaire.
Une annonce sans image, malheureusement. On vous a déjà dit que le samedi 3 septembre, c'est les 10 ans de Arocha, qui est une association chrétienne qui se préoccupe d'écologie. C'est une association internationale, elle fête ses 10 ans en Suisse. Et pour ceux qui savent, Chanson. Cédric Chanson est très engagé dans cette association et aussi avec son église. Et en tant qu'église, on aimerait aussi participer à cette fête. D'une part, le dimanche, on abordera cette thématique. Et puis le samedi, à l'Arboretum d'automne d'Aubonne, il y a toute une fête organisée avec des animations, en particulier pour les enfants, de 10h30 à 17h. Et puis, ça serait peut-être l'occasion aussi de prendre certains engagements en tant d'église. Voilà, c'est à voir. Mais je crois que c'est quelque chose d'important pour notre temps. Et ils recherchent des bénévoles pour assurer les animations. Il faudrait 3 ou 4 bénévoles pour il y a une expo éco-parabole. Et puis, il y a aussi un rallye éco-aventure. Donc, voilà, ils recherchent des bénévoles. Et ça serait bien si vous pouviez vous annoncer déjà aujourd'hui, parce que l'organisateur, il m'a dit, mais j'aimerais avoir les noms demain. Alors, je l'ai dit, c'est un peu difficile. Moi, je n'étais pas là cette semaine. Bon, voilà. Mais enfin, je lance la chose et j'espère qu'on trouvera quand même quelques bénévoles de notre église. Je pense qu'il y a aussi d'autres églises qui vont en fournir pour cette journée du samedi 23 à Aubonne. Voilà.
Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de toute grâce, le Christ ressuscité, le Saint-Esprit qui nous unit, vous accompagne, vous renouvelle et vous garde. Je vous souhaite une belle semaine.